Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel au micro Yves Bastide pour l'émission Nouvelles de Russie. Je voudrais aujourd'hui évoquer un écrivain énorme, Nikolaï Vassilievitch Gogol. Il est né en 1809, il est mort en 1852. Son œuvre majeure, c'est sans doute Les âmes mortes. Ce n'est pas vraiment un roman, il appelle ça lui-même un poème. Et ces nouvelles fantastiques ont acquis une réputation mondiale. Je citerai simplement Le Manteau, le journal d'un fou, et celle dont je voudrais plus particulièrement parler aujourd'hui, Le Nez. Voici donc Le Nez de Nicolas Gogol. Le 25 du mois de mars survint à Pétersbourg un événement tout à fait insolite. Il y avait un barbier qu'on appelait Ivan Yakovlevitch, qui habitait avenue de l'Ascension. Son nom de famille est perdu, et même son enseigne, représentant un monsieur à la joue barbouillée de savon, porte la seule inscription « Ici, on pratique la saignée », sans indiquer rien de plus. Or donc, le barbier, Ivan Yakovlevitch, s'éveilla d'un assez bon air, renifla une odeur de pain chaud. Il se souleva à demi sur son lit, vit son épouse, dame plutôt imposante et très portée sur le café, qui retire du four les pains qu'elle venait tout juste de cuire. « Aujourd'hui, je ne boirai pas de café, Praskovy Osipovna, dit Ivan Yakovlevitch. À la place, j'ai plutôt envie de manger du bon pain chaud avec de l'oignon. » À vrai dire, Ivan Yakovlevitch aurait bien voulu l'un et l'autre, mais il savait qu'il était absolument impossible de prétendre aux deux à la fois. Praskovy Osipovna détestait ses fantaisies. Qui mange du pain s'il veut, l'imbécile, ça m'arrange, se dit Praskovy Osipovna en son fort intérieur. J'aurai davantage de café. Et elle jeta un pain sur la table. Pour ne pas être incorrect, Ivan Yakovlevitch enfila son habit par-dessus sa chemise de nuit, s'installa devant la table, se versa du sel, prépara deux oignons, empoigna son couteau et, prenant une mine grave, entreprit de couper le pain. Le pain, une fois coupé en deux parts égales, il regarda l'intérieur et aperçut à son grand étonnement quelque chose de blanc. Ivan Yakovlevitch explora précautionneusement de la pointe de son couteau l'objet inconnu, le tâta du doigt. Ça m'a l'air consistant, se dit-il, et qu'est-ce que cela peut bien être ? Il enfonça ses doigts et retira un nez. Les bras lui en tombèrent, il se frotta les yeux, se mit à tâter, c'était un nez. Un nez incontestablement et que Dieu surcroît lui rappelait quelqu'un de connu. L'effroi se peignit sur le visage d'Ivan Yakovlevitch, mais cet effroi ne fut rien à côté d'indignation qui s'empara de son épouse. « Où as-tu été coupé ce nez, espèce de sauvage ? » vociféra-t-elle. « Bandit, ivrogne ! Je vais en personne te dénoncer à la police, brigand, va !» Cela fait trois clients qui me disent que quand tu les rases, tu tires tiremblement sur leur nez, qu'ils ont peur de le perdre. Ivan Yakovlevitch, cependant, était plus mort que vif. Il venait de s'apercevoir que ce nez n'était autre que celui de l'assesseur de collège Kovalyov qu'il rasait les mercredis et les dimanches. Attends. Parce que oui aussi, pauvre je vais l'envelopper dans un chiffon, je le mettrai dans un coin, nous lui laisserons un petit bout de temps, et puis après, je l'emporterai. Rien à faire. Pas question que j'admette chez moi, dans ma maison, un nez coupé, vieux crouton. C'est tout juste bon à repasser son rasoir sur le cuir, mais pour ceux qui de s'acquitter de ses obligations, il en sera bientôt incapable, voire rien. Et tu voudrais que je réponde de toi à la police, barbouilleur de menton, triple bûche. Allez, où s'emporte ça, où tu voudras, que je n'en vois plus la couleur. Ivan Yakovlevitch était comme anéanti. Il avait beau réfléchir, il ne savait que penser. Le diable seul sait comment ça a pu se produire, dit-il enfin, en se grattant derrière l'oreille. Étais-je ou non sous hier, quand je suis rentré, ma foi ? Je n'en sais fiche plus rien, en tout cas. Tout semble indiquer qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Dupin, cela se fait cuire, mais un nez, jamais. C'est de ne rien comprendre. Ivan Yakovlevitch se tut. La pensée que les gendarmes allaient trouver un nez chez lui et l'inculperaient le plongeait dans la stupeur. Il voyait déjà surgir le revers écarlate et les gamins chamarrés d'argent. Il croyait voir les pieds trembler de tous ses membres. Pour finir, il s'en alla chercher son linge de dessous, ses bottes, enfila toutes ses vieilleries, enveloppa le nez dans un chiffon et sortit, poursuivi par les jurons de Praskovia Osipovna. Il aurait voulu glisser le nez quelque part, l'introduire sous quelque portail ou bien le laisser tomber comme cela par mégarde et puis obliquer dans une ruelle, mais à chaque fois pour son malheur, il tombait sur l'une de ses connaissances qui commençait aussitôt l'enquête habituelle. Où vas-tu ? Qui donc t'a prêté tu as rasé de si bon matin, t'as si bien ? Qu'Ivan Yakovlevitch n'a pu aucunement trouver la minute propice. Une autre fois, le nez était déjà par terre, mais un sergent de ville de sa guérite lui indiqua en disant « Ramasse, tu as fait tomber quelque chose !» Et Ivan Yakovlevitch fut contraint de ramasser le nez et de le cacher dans sa poche. Le désespoir l'envahit, d'autant plus que la foule sans cesse augmentait dans la rue au fur et à mesure que s'ouvraient magasins et boutiques. Il décida d'aller jusqu'au pont Saint-Isaac, espérant trouver un moyen ou un autre de jeter l'objet dans la névant, mais je me sens un peu coupable de n'avoir encore rien dit jusqu'ici de l'homme estimable à bien des égards qu'était Ivan Yakovlevitch. Ivan Yakovlevitch, comme tout bon artisan russe et qui se respecte, était un effroyable ivrogne. Il avait beau raser chaque jour les mentons d'autrui, son menton à lui était éternellement mal rasé. Son habit était de couleur pie, en d'autres termes il était noir, mais comme pommelé, semé de taches marron, jaune et grises, le col était lustré. Quant aux trois boutons, il n'en restait plus que les fils pendants. Ivan Yakovlevitch était un grand cynique, et lorsque l'assesseur de collège Kovalyov lui disait à son habitude pendant qu'il le rasait « Vraiment, Ivan Yakovlevitch, tu as toujours les mains qui puent. » Ivan Yakovlevitch répondait « Et pourquoi donc voudriez-vous qu'elle pue ? Je n'en sais rien, mon bon toujours dit qu'elle pue. » reprenait l'assesseur. Et pour la peine, Ivan Yakovlevitch, après une prise de tabac, se mettait à le savonner sur la joue, dessous le nez, au revers de l'oreille, par-dessus la barbe, presque, bref, partout où le cœur lui disait. Notre estimable citoyen, cependant, avait atteint le pont Saint-Isaac. Avant toute chose, il inspecta les alentours, puis se pencha par-dessus la balustrade comme pour regarder sous le pont si l'on voyait frétiller des poissons, et lança subrepticement le bout de chiffon et son contenu. Il se sentit d'un coup comme soulagé. Et au lieu de s'en aller raser les mentons de messieurs les fonctionnaires, il prit la direction d'un établissement que surmontait l'inscription « Plats chauds et boissons chaudes » pour demander un verre de punch. Lorsque soudain, il aperçut au bout du pont l'inspecteur de police du quartier, homme de noble apparence aux épées favoris, coiffé d'un tricorne ceint d'une épée. Il resta cloué sur place. L'inspecteur, cependant, lui faisait signe du doigt et disait « Approche ici, mon cher !» Ivan Yakovlevitch, qui connaissait les usages, commença par ôter sa casquette de loin, puis s'approcha. « Mais respect, votre noblesse. Non, non. L'ami, garde-t-on, votre noblesse. Dis-moi plutôt ce que tu faisais là-bas, sur ce pont. » Oh, je le jure, monsieur, j'étais allé raser des clients, j'ai voulu seulement voir s'il y avait beaucoup de courant. Tu ne vas pas t'en tirer à si bon compte. Fais-moi le plaisir de répondre. Je suis prêt à raser votre grâce 2 fois par semaine ou même 3 fois sans la moindre objection, répondit Ivan Yakovlevitch. Mais non, l'ami, tu veux rire, j'ai 3 barbiers à mon service qui s'en trouvent très honorés. Voyons. Fais-moi le plaisir de me raconter ce que tu faisais là-bas. Ivan Yakovlevitch blêmit, mais ici, notre histoire s'estompe complètement dans le brouillard et nul ne sait ce qui s'ensuivit. L'assesseur de collège, Kovalyov, s'éveilla de ses bonheurs et fit avec les lèvres. C'était son habitude chaque matin au réveil, quoiqu'il fût lui-même incapable d'en expliquer la raison. Il s'étira, se fit donner le petit miroir qui était sur sa table, il voulait jeter un coup d'œil sur un petit bouton qui, la veille au soir, avait fait son apparition sur le bout de son nez. Or, quelle ne fut pas sa stupeur lorsqu'il constata qu'à l'emplacement de son nez, l'endroit était parfaitement lisse. Pris de peur, Kovalyov se fit apporter de l'eau, se frotta les yeux avec une serviette. Aucun doute, son nez avait disparu. Il commença à se palper, se pinça, pour savoir s'il ne dormait pas. Non, apparemment, il était bien réveillé. Notre assesseur bondit de son lit, s'ébroua toujours. Point de nez. Sans perdre une seconde, il se fit donner son vêtement. Il fila tout droit chez le préfet de police. Le major Kovalyov avait l'habitude, chaque jour, de faire sa promenade à pied sur la perspective Nevski. Le col de son plastron était toujours extraordinairement propre et bien empesé. Ses favoris étaient du genre de ceux que l'on peut encore voir de nos jours. Ses favoris, le major arborait tout un choix de cachets en cornaline, les importants en blason, les autres avaient l'inscription le mercredi, jeudi, lundi, etc. Le major était venu à Pétersbourg, poussé par la nécessité. Il n'était pas aussi hâtif du mariage, mais à condition que la fiancée fût assortie de 200 000 louvres, roubles de capital. Alors, il entra dans sa chambre de thé, puis lorsqu'il en sortit, il resta cloué sur place. Devant l'entrée, un coupé s'était rangé, les portières s'ouvrirent. Un homme en grand uniforme bondit tête baissée sur le trottoir, s'élança en courant dans l'escalier. Or, quelles ne furent pas l'horreur de Kovalyov et sa stupéfaction lorsqu'il reconnut en cet individu son propre nez. À ce spectacle inouï, tout se mit à tourner devant ses yeux. Il sentit ses jambes se dérober. Au bout de 2 minutes, le nez réapparut. Son uniforme était chamarré d'or et muni d'un grand col droit. Tout indiquait qu'il se rendait en visite. Il regarda à droite et à gauche, cria au cocher d'avancer, monta dans la voiture et disparut. Le pauvre Kovalyov crut perdre la raison. Je vous remercie de m'avoir écouté.